sur radiofrance.fr.
Radio France et l'AFP présentent France 2012, la nouvelle application tablette et mobile. Suivez les élections législatives de façon personnalisée et ludique. Texte, vidéo, photos, vivez une expérience d'info originale sur iPad, iPhone et Android. France 2012, une application Radio France en partenariat avec l'AFP.
Plus d'infos sur radiofrance.fr.
France Inter, la différence.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet. Bip.
C'est Michel, dans le centre Var, à Cabasse exactement, un village en Provence. 1400 habitants à peu près. Sur les extérieurs, des belles maisons avec des piscines. Et à l'intérieur, un centre du village. Autrefois, les mines de bauxite fermées depuis 91. Je voudrais qu'on m'explique pourquoi, alors qu'il n'y a pas de boulot, alors qu'il y a des salaires de merde, alors qu'il y a de la précarité, on vote à droite, et alors qu'il n'y a que deux familles peut-être marocaines, d'ailleurs on ne les voit pratiquement jamais, on vote Front National de plus en plus. Je ne comprends pas, on est plusieurs à ne pas comprendre d'ailleurs. Il n'y a pas d'insécurité, et ceux qui vivent bien d'ailleurs des allocs et tout ça, ce sont des beaux petits Français bien blancs de peau, bien blonds, avec des yeux bleus, qui profitent, oui. Alors je voudrais comprendre, voilà... 1400 habitants, on vote à droite et on vote au Front National. Voilà. Moi, ma France, maintenant, je ne la reconnais plus. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe.
C'est Marie des Bouches-du-Rhône, je viens d'écouter les messages. Il faudrait aller vivre à Cavaillante pour tous ces bons Français là qui ont l'air de dire que le Front National, arrêtez de le diaboliser, arrêtez, il y en a marre. Front National, c'est un parti politique comme un autre, il a le droit de parole, je vois pas pourquoi aujourd'hui on éviterait ce parti politique. Au revoir, bonne journée.
Oui, bonjour. Ce message pour répondre au monsieur du Var qui se fait cambrioler, qui vient d'appeler, je viens d'écouter le message sur le répondeur de l'émission. Alors je parle au nom des bobos. Alors si les Roms sont bien les coupables, eh bien il faut le sévir. Je vous invite à insister auprès de la justice pour les retrouver. Bah, quant à vous, contrairement à ce que vous êtes bien raciste. Un film de bobos en passant, Les neiges du Kilimandjaro de Guédiguian. Voilà, c'était Boris de Marseille.
Féliqué, mon grand-père, est né vers 1920 au sud de la Pologne. Ses parents ont migré en France en 1910 selon leurs papiers. Il venait pour travailler dans les mines en Aveyron. Après avoir été baligou, enfant des mines, Féliqué s'est tourné vers une carrière de coiffeur. En 1939, la Pologne tombe aux mains de l'Allemagne nazie. La France déclare la guerre à l'Allemagne. Allemagne qui part du principe que les Polonais de France doivent se battre sous les drapeaux nazis et non pas sous les drapeaux français. Mon grand-père, de nationalité polonaise, décide de se battre pour son pays d'adoption. Il monte vers l'Est sous le drapeau français. Il se bat, et à la mi-juin, alors que l'armée française capitule, eux, les immigrés, continuent de se battre pour libérer leur pays d'adoption et protéger le reste de l'Europe. L'armée française fuit, les immigrés ramassent leurs armes sur des cadavres. Arrêté, mon grand-père est jugé comme traître par l'Allemagne nazie et sera enfermé en camp de concentration en Suisse jusqu'à la libération. La France, qui aime et protège ses immigrés, a remercié mon grand-père à la libération avec un paquet de cigarettes pour tenir le retour. Au printemps 95, il a été décidé de décorer et de verser une pension de guerre à toute personne ayant combattu sur le front Est. Mon grand-père est décédé en avril 95, un mois trop tôt. Il y a 2 ans, je suis allée aux Invalides, au siège national des anciens combattants. J'ai parlé de l'histoire de mon grand-père, j'avais tous les papiers. Un monsieur m'a rié au nez en disant « on ne va pas aussi reconnaître les morts ». Je suis partie. Je vous raconte cette histoire après l'écoute de quelques discours sur le répondeur du jour. En plus d'être petite fille d'immigrée, j'ai grandi dans les quartiers, j'y ai même travaillé. Décidément, personne ne se pose des bonnes questions. A-t-on jamais donné l'occasion aux immigrés et à leurs enfants, de quelque époque qu'elle soit, de quelque pays d'origine qu'ils soient, l'occasion et les moyens de se sentir français et non pas esclaves de la nation française, que ce soit pour une guerre ou pour essuyer la merde au cul du bon français? Ce même bon français, qu'a-t-il fait pour son pays de naissance?
À l'enterrement du film de BHL, j'étais derrière, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais tout seul à l'enterrement. Salut Daniel, ben écoute, j'ai beaucoup ri l'autre soir en écoutant Jean-Michel Apathy qui annonçait le score fulgurant des entrées pour la sortie du film de BHL, 288 entrées en 19 salles. BHL pulvérise ses records, son propre record du ridicule. BHL continue, BHL continue à nous faire rire. Salut Daniel, salut ces gens du Jura.
Eh bien, on est très déçus. On est très déçus avec Guy Yvan Coutil. On vient d'arriver en Libye, on vient d'arriver à Tripoli pour la sortie du film de BHL. On est venu au pays qu'il a libéré pour demander, pour voir avec les Libyens, pour partager avec les Libyens la joie et le bonheur de la sortie de ce film, de leur libérateur, de celui qui les a libérés, qui leur a fait découvrir la liberté. Eh bien, personne ne connaît BHL. C'est terrible, non? Non seulement, évidemment, personne ne sait que le film est sorti, mais en plus, personne ne connaît BHL. Alors, on est très déçus, on se demande ce qu'on va faire. On est venu foutre ici à Tripoli, mais on a trouvé une très bonne idée. On va se reconvertir, on va laisser tomber le journalisme, et on va se reconvertir dans le béton. Dans le béton, le marché de la reconstruction en Libye, c'est un marché de 200 milliards de dollars. Un gâteau de 200 milliards de dollars. Alors on va peut-être bien se reconvertir. On vous en dira plus très bientôt. En attendant, ce qui marque quand même ces jours derniers, ces mois derniers, en France, c'est la peur. Oui. Il y a certains démagogues à la tête de certains partis qui savent faire peur. Faire peur est un moyen formidable de contrôler, de diriger le petit peuple que nous sommes. Aujourd'hui, dans la base, j'y suis, la peur. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bon, maintenant que la foire électorale est finie, que certains ont fini de faire le beau devant les caméras et patati, patata, et toute cette politique spectacle dont on veut plus, en tout cas pas moi, il serait peut-être temps d'arriver au combat d'idées. Et pour combattre mot à mot les mots du Front National, et en commençant par cet auditeur qui a dit que les gens qui défendaient les sans-papiers ne subissaient pas ou ne vivaient pas avec les immigrés, bien au contraire, il faut que ces personnes comprennent que si la lutte des réseaux éducation sans frontières, elle est née dans les écoles, et pourquoi elle est née dans les écoles? C'est parce que les gens s'y côtoient, et s'y rencontrent, et s'y connaissent, et apprennent à se connaître, et c'est justement pour ça qu'on ne laisse pas des enfants partir de l'école pour être envoyés je ne sais où. Hein, il faut savoir que des gens qui votent à droite sont tout à fait capables de signer des pétitions pour un enfant qu'ils connaissent dans leur école. Donc la connaissance de l'étranger en général, ça amène à ne pas voter pour les extrêmes, et surtout pas pour le Front National. Et les arrondissements de Paris, où le Front National fait le plus bas score, où la gauche en général et le Front de gauche fait ses meilleurs scores, parce que la gauche et le Front de gauche, c'est pas pareil, c'est les arrondissements où les immigrés et les bobos vivent ensemble. Il faut bien le savoir. Alors, on peut se foutre de la gueule des bobos, et moi, je suis pas la dernière, mais il faut quand même revenir aux réalités. La réalité, c'est que quand on vit ensemble, dans un immeuble, quand vous avez des Tunisiens, des Sri Lankais, des Marocains d'origine ou de nationalité, et des Français qui viennent de partout en France, et bien tous ces gens-là arrivent très bien à s'entendre si c'est pas ghettoisé. Voilà. Alors, tout ça, c'est un problème social. C'est pas un problème de savoir d'où viennent les gens.
Je voudrais signaler ce soir deux reportages intéressants à la télé. Le premier sur Arte, 22h15, Barène, la plongée dans un pays interdit. C'est un reportage complètement clandestin. Le deuxième, 23h, France 2, sous surveillance, dans la prison de Châteaudun. Voilà, puis je voudrais dire aussi que je suis vraiment déçue pour le score de Martine Billard, qui n'a fait que 12,5%. Elle ne sera donc pas députée, et c'est elle pourtant qui a porté l'écologie au Front de gauche. Voilà, je suis vraiment déçue. Allez, au revoir, Marie-Paul de Villejuif.
Mais dans les bois, dans les forêts,
je vous préviens, ne venez pas trop les nuits rôder.
s'il fait nuit.
J'ai appelé papa. T'es au secours, papa, au secours, il m'a griffé. Donc, il est venu.
Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et depuis... Parce que du coup, quand quelque chose est bien, bah, j'ai toujours peur que ça s'arrête.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Charlotte Berry. Je vais vous faire peur.
Flight number 2, arriving from...
Nous sommes ce ring où sans cesse boxe la raison et l'émotion. La trouille, les moules, les copeaux, les jetons, les chocottes, les avoirs à zéro, les miquettes à zéro. On disait même le trouillomètre à zéro. La peur, la terreur, la phobie, l'angoisse, l'épouvante. C'est curieux tout de même. La peur, on dit d'une peur bleue, mais on ne dit jamais une peur jaune ou violette. Pas d'autre couleur que bleue, la peur. Ah, on peut être blanc de peur, oui. Oui, je suis vert, mais c'est pas vraiment la peur, c'est le dépit. La peur, c'est une émotion qui bloque la raison et l'émotion. La peur fait dérailler la réflexion, l'épouvante abolit la raison. La terreur confisque les esprits, la peur, la preuve, on dit, reprendre ses esprits. La peur cloue, fige, glace, le sang s'en va, le tremblement, la chair de poule, la sueur froide. La peur, voilà ce que savent exploiter démagogues politiques depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, on ne dit pas le jour des temps. On ne dit pas depuis le jour des temps. On ne dit pas depuis le matin des temps. On dit depuis la nuit des temps. La nuit des temps. La nuit fait peur. La nuit est propice à la peur. Les démagogues, je le disais, font peur avec des faits divers, des chiffres, de l'insécurité. Mais il n'y a pas que le pouvoir qui exploite la peur. Il y a les commerciaux, les publicitaires qui, consciemment ou non, exploitent nos peurs. Mais il y a aussi la fiction, la littérature, la peinture, le cinéma. Que serait l'art? Que serait la culture? Que serait la pensée? Que serait le monde sans la peur? Voilà pourquoi, jusqu'à 16h avec Charlotte Perry, nous allons vous faire peur.
Je vois le docteur Frankenstein, je vois des étranges instruments, je vois des soignants terrifiants aspirant mes fluides et mes sangs, je vois des toupies psychopathes, je vois des psychiatres sacariens. Des gants de latex sous le feu des éclairages blancs, dénudant mon corps inquiétant. sabre de fer, le lit roulant de mes bourreaux. Dans mes draps baignés de sueur, je sens soudain monter la peur, le contact glacial du métal, la peur, l'ombre de la maladie mentale. La peur, l'ombre de la maladie mentale.
J'ai horreur de l'eau où je vois pas le fond. Ça, c'est un truc, ça m'angoisse horriblement. Vous ne me ferez pas monter sur un bateau si je vois pas le fond de la mer, ça m'angoisse d'une manière horripilante. Je supporte pas si ça m'angoisse. Si c'est une grosse étendue d'eau et qu'on voit pas le fond, si c'est noir, c'est quelque chose qui est terrible. En haute mer, je suis très mal à l'aise parce que il y a le mouvement de la mer, c'est noir, c'est obscur et ça, vous me faites pas nager. Pourtant, je suis très bonne nageuse, mais je ne nage pas dans les eaux profondes et tout ça, c'est quelque chose qui m'angoisse. Ne pas savoir ce qu'il y a en dessous, ça c'est clair et net, c'est la chose la plus angoissante pour moi. C'est irrationnel. Je ne supporte pas ça, ça m'angoisse, cette histoire de noir comme ça, c'est horripilant, c'est un truc.
Oh, j'ai eu des peurs atroces pendant la guerre, mais ça c'est un peu estompé.
C'est les moments où vous avez eu le plus peur dans votre vie ou...
Ah bah c'est-à-dire que la peur de la guerre, quand il y a les bombardements, parce que par exemple, un jour j'étais dans la maison de maman. On avait une très bonne cave, c'est une ancienne maison, vous savez, d'avant la guerre de 14. Très bien construite, solide, puisque des voisins venaient s'abriter chez nous quand il y avait les sirènes, qui avaient les alertes. Et on était là, et là, brusquement, il y a eu l'alerte. On a entendu de ces bombes qui éclataient, mais épouvantables, et pas loin. Alors, on est vite descendu tous à la cave, même le chien, tout le monde est descendu, on était tous. Et alors, il y a des soupiraux. Dans cette cave, ils étaient rouges, mais comme le tapis, tellement il y avait de... comme si tout flambait. Et ça a duré, je ne peux plus vous dire. Et à un moment, c'était tellement atroce, qu'on a cru qu'on mourait. J'ai eu l'impression que je mourais, et ma mère aussi. Et on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre, et pendant, je ne sais pas, moi, c'est difficile de juger, de calculer, 2-3 secondes, je me suis dit, je suis morte. Vous voyez ? Ça, c'est terrible. Là, j'ai eu très peur pendant la guerre. Voilà, les frayeurs de ma vie. Alors après, j'ai des frayeurs de voyous. La plus grande peur que j'ai eue aussi, c'est que j'avais 15 ans, et c'est un homme, un malade. Il m'avait suivi, c'était le tramway à l'époque, qui passait là sur la grande... On appelait ça route de Créteil, maintenant c'est avenue du Général Leclerc. Ouais. Il m'a suivi jusqu'au coin de notre rue. Maintenant, elle s'appelait Arthur Dalidet, à l'époque, elle s'appelait rue des Hommes. Et quand je suis rentrée dans cette rue, c'était éclairé au bec de gaz à l'époque. Il s'est mis dans mon dos, je l'ai senti arriver. Et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Ou dehors. J'avais 14 ans. J'ai hurlé au secours, mais il n'y avait personne. Hein. Et je me souviens, je le vois encore, il avait une petite moustache, un homme d'une quarantaine d'années. Il m'a dit, oh, fais pas ça. Parce qu'il y avait un pavillon pas loin, mais les gens ne m'ont pas entendu. Mais lui, il a peut-être eu peur. Là. Et je me suis mise contre le mur du pavillon. C'était un mur avec une grille au-dessus. Et je suis restée là, assise par terre. Et c'est une petite camarade qui revenait d'un cours chez Pigé, je crois, qui m'a rencontrée, qui m'a emmenée chez sa maman, qui m'a fait boire de l'alcool parce qu'elle m'a dit « tu pourrais attraper une jaunisse ». Mais ça, c'est la première grande frayeur de ma vie. Mais maintenant, il est tu, c'est pire. Parce qu'à l'époque, c'était rare qu'on tuait des enfants. Mais maintenant, c'est souvent, vous voyez, dans les journaux. Alors, je dis, j'ai encore eu de la chance. Ça m'a laissé une grande frayeur de ma vie. La première grande frayeur de ma vie.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur maintenant ?
Ben, ce qui me ferait le plus peur maintenant, c'est que je ne sors plus le soir.
Vous ne sortez plus le soir ?
Je ne sors pas le soir. Je ne suis jamais beaucoup sortie parce que mon mari est resté 10 ans, là, il ne pouvait plus marcher. Alors, si je suis accompagnée, oui, mais... Sans accompagnement.
Vous auriez peur de sortir dehors?
Ah, je ne sortirais pas le soir.
Toute seule?
Ah non. Et puis alors, j'ai eu longtemps peur dans le métro, parce qu'il y a à peu près 12 ans, j'allais chercher ma maman pour l'emmener en vacances en Normandie. J'allais chercher maman à Maison-Alfort. Donc moi, je pars d'ici, mon imperméable, mon sac en bandoulière, mon petit sac de voyage. Et j'avais un magnifique sautoir ancien que mon mari m'avait acheté avec une énorme, j'ai jamais revu une griffe comme ça, une énorme griffe de tigre, montée sur or, ancien aussi, très ancienne, une ancienne, ça devait être un tigre d'un bel âge. Hein. Et alors, j'avais mis au bout de mon sautoir, qui faisait deux grands rangs comme ça. Alors, je change à Madeleine pour prendre préfecture de Créteil. Et là, il y a un couloir assez long de correspondance. Et là, tout à coup, un homme vient vers moi, me colle contre le mur, correspondance Créteil, le grand couloir. Et un autre faisait le guet. Il me prend le sautoir sur les côtés, qui avait deux rangs. Hein.
Et il le casse.
Casse, oui. Et il est parti en arrière, comme un danseur, d'une manière très légère, en sautant comme un danseur, puis en mettant le doigt sur la bouche. Et pfft, ils sont partis tous les deux. Alors je prenais le moins possible le métro, le moins possible. Hein. Alors ça, c'est une peur de ma vie aussi, hein. Une grosse, grosse peur. Pourquoi ils volent les gens comme ça, ils font que ça, hein. Enfin voilà, mes frayeurs, mais maintenant je suis très peureuse. Hein. Oui.
Mais ça ne vous empêche pas, quand même, vous n'avez pas peur au point de ne plus
sortir. Maintenant, ça va un peu mieux, maintenant. Parce que mon mari ajoutait encore à ma peur. Bah oui, il avait peur pour moi, comme il ne pouvait plus m'accompagner, ne pouvant plus marcher, vu son grand âge. Quand je m'en allais, si j'allais faire une course dans Paris et tout ça, il me disait, attention, fais attention, nanana, prends un taxi, nanana. Alors maintenant, je suis toujours peureuse, hein, mais je suis moins angoissée.
Vous pensez quand même qu'on est quand même en sécurité, quand même?
Pas trop.
Pas trop?
Non.
Moins que qu'à d'autres époques
Ah, moins qu'à d'autres époques, ah oui. D'ailleurs, il y a trop de malheureux maintenant. Parce que ce qui génère ça, souvent, c'est... Enfin, il y en a qui naissent malhonnêtes et voleurs. Mais ce qui génère ça, c'est... Puis il y a l'éducation aussi, mais c'est la misère, souvent. Voilà ouais. Toutes mes peurs. Vous emportez toutes mes peurs. Si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs. Si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser. Vous emportez toutes mes peurs, si vous pouviez m'en débarrasser.
Quel âge as-tu ?
12 ans.
Est-ce que tu sens qu'il y a un étranger en toi ?
Oui, des fois.
Qui est cet étranger ?
J'en sais rien.
C'est le capitaine, c'est tout ?
Je ne sais pas.
Si je lui pose la question, tu lui permettras de répondre ?
Non.
Pourquoi ?
J'ai trop peur.
Si c'est à moi qu'il parle, je crois qu'il te quittera. Est-ce que tu veux qu'il te quitte ?
Oui.
Je m'adresse à la personne qui est à l'intérieur de Régine. Si vous êtes là, vous êtes également hypnotisé et vous devez répondre à toutes mes questions. Alors, parlez. Répondez.
De quoi j'ai le plus peur ?
Du noir, ça fait bizarre, mais... J'ai peur du noir, de me retrouver seule là, dans une chambre noire. C'est un truc comme les petits enfants, mais c'est quelque chose que j'ai pas surmonté depuis l'enfance, quoi. Le noir, quoi. Être seule dans une pièce noire, c'est impossible, quoi. Ça, c'est vraiment une de mes grosses peurs.
Alors, tu fais comment la nuit ? Tu laisses une lumière allumée ?
Oui, si je suis toute seule, oui, tout le temps.
Tu ressens si t'es dans une pièce
J'ai du mal à respirer, je transpire, rien qu'en parlant j'ai les mains moites, c'est vraiment... Bah aussi parce que peut-être comme on a été une grande famille et que pendant longtemps on était dans un petit appartement tous ensemble avec mes frères et sœurs et qu'on dormait tous dans la même pièce, dans le même lit, tous collés les uns les autres, je pense que ça doit devenir sûrement de là quoi en fait, hein. Ce qui fait que je ne peux pas dormir seule.
Et là, mais là, dors ça, donc tu dors.
Je suis mariée, du coup, ça. Du coup, tout va bien. Peut-être le fait d'être mariée à 20 ans, quoi. Il peut pas travailler le soir, il peut pas. Non, il peut pas. Sinon, j'ai ma soeur qui vient dormir à la maison ou une copine, mais je peux pas rester seule dans le. Je peux pas, voilà.
Le plus peur.
Le plus peur, oui.
Mais savez-vous, vous m'avez surpris.
Mais quoi dire de plus,
hein? Non, ce qui fait le plus peur,
c'est la sécurité.
La sécurité.
La sécurité, oui.
Ici, là, la sécurité.
Bah, ici, non, mais enfin, en général.
En général, en France.
Oui.
Oui, dans la région en particulier.
Non, c'est à peu près calme ici.
Mais là, à Beaune, t'as commencé à...
Oui, oui, dans les villes.
Dans les villes.
Oui. Puis ça peut s'étendre ailleurs.
Dans les campagnes, ça vient dans les campagnes.
Ça commence à venir.
Oui, voilà, et puis on les attend. Les voyous.
Vous les attendez?
Oui, à pied ferme.
Mais il y a eu des choses dans les campagnes qui se sont passées?
Ah oui, de temps en temps.
Oui, des petites choses.
Que des vols.
Mais pas les voitures qui brûlent, tout ça?
Ça vient encore pas. On a nous, on a ce qu'il faut là pour... hein.
Ah, bah, Dijon, oui.
À Dijon. Et ça vous fait peur,
oui? Oui, c'est... on n'est pas en sécurité. On ne sait jamais qui peut venir.
Si, il y en a venu comme ça, des fois, ben, ils sont bien reçus, ils s'en vont après, ils ne reviennent plus. On tire 2-3 coups de fusil, puis ça y est.
Non.
Si, on les fait courir.
Tu racontes des bêtises.
Ben, si, c'est arrivé.
C'est pas sérieux, ça.
Mais c'est arrivé une fois.
Oui, bon.
Il y a un de vos voisins qui a tiré un coup de feu.
Non, c'est moi.
Vous?
Mais si.
Oh, il a...
Si. Je l'ai fait traverser la rivière, qui était très haute.
C'était un voleur?
Mais on ne sait pas ce qui c'était.
On l'a pas vu.
J'ai fait les sommations, il ne s'est pas arrêté. J'ai tiré. 2 coups de fusil. On n'a jamais eu de nouvelles. On a regardé le lendemain, s'il n'y avait pas de traces de sang, mais il n'y avait rien. Alors il n'est pas mort. Je l'ai entendu traverser la rivière, c'est tout.
Et ça s'était jamais arrivé avant?
Non.
Depuis que vous habitez ici, non. Jamais?
Jamais.
Bon.
Alors je vous préviens, ne venez pas trop les nuits rôder. Il faut songer qu'on n'a pas peur. Voilà. Et puis il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, vous êtes perdu.
On se fait peur.
Dis-moi ce qui te fait peur. Dis-moi ce qui te fait peur. Immédiatement, la réponse vient. L'image arrive tout de suite. Et ça en dit long. Ça en dit très très long sur le sens donné au mot, sur les peurs qui émergent, qui apparaissent immédiatement. Phobie, terreur, angoisse, tout ça, ça rentre derrière ce mot de peur. Et il y a aussi du plaisir dans la peur, hein. C'est des émotions qui sont souvent voisines du plaisir, du sourire, du rire, tant on est heureux de mettre la peur à distance. Ça en dit long, ça en dit très long. Et chacun se révèle à travers la peur qu'il décrit, qui lui vient à l'esprit, à l'instant même où la question vous est posée.
Peur d'être noir en France. Enfin, c'est excessif là ce que je dis, mais je me comprends dans la mesure où depuis qu'il y a trop de clandestins, on dirait qu'il n'y a que les noirs qui viennent en France en clandestinement. Quand on parle de régulariser les papiers, je vois pas que des noirs dans la foule, mais dès qu'on parle de clandestins, on montre que les noirs. Je dirais que c'est que nous qui faisons peur et que tout le monde est le bienvenu sauf nous. Je suis en France depuis l'âge de 12 ans, mais je le vis comme si je venais d'arriver. J'ai pas à me plaindre. Franchement, la France, elle m'a donné beaucoup de choses. J'ai pas à me plaindre. Mais c'est juste le fait de revoir tout le temps ces images sans cesse. Comme si on venait de prendre conscience qu'on existait.
Tu sens des fois le regard des gens
Vraiment. Je veux dire, même encore ce matin, j'ai pris le RER. Il y avait plein de places avec différentes personnes, une place à tous les niveaux. Bon, je suis monté, j'ai pas voulu aller me mettre à côté de certaines personnes, entre guillemets, au bon temps pour pas effrayer. Et je suis allé m'asseoir à côté d'un frère black et tout. Et malgré ça, j'ai senti un touriste. Bon, il est pas français lui, c'est un monsieur, un touriste qui était avec sa petite famille et il avait presque peur que je les agresse, quoi. Alors que moi j'allais travailler. C'était le matin, comme tout le monde, je sais pas pourquoi. Si je voudrais agresser quelqu'un, ce ne serait pas le matin. Non, mais c'est des petites choses que je ne veux pas tout attirer sur le racisme. Mais c'est vrai que c'est la chose qui me fait le plus peur dans ce pays. Et que j'ai l'impression que les gens ils ont un ras-le-bol général. Mais je ne sais pas si c'est contre les Noirs ou contre l'immigration en général. Mais c'est chaud, je trouve. J'ai pas peur du regard des autres. Parce que le regard des autres, à la limite, je pourrais l'affronter. Mais j'ai peur qu'en l'affrontant, on l'interprète comme si c'était un acte de délinquance ou... Parce que les gens, ils nous regardent, mais comment je vais bien les regarder, que ça va être fixement pour lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va baisser la tête. Ça peut être, je sais pas, en fait, c'est pas respect pour les gens que... Des fois, je baisse le regard pour pas gêner. Des fois, je rentre dans un endroit, j'ai l'impression que j'ai effrayé les gens. C'est l'impression que... Et moi, je n'ai jamais agressé personne, ça me la fout mal. De voir que je fais quelque part un peu peur, ça... Non, c'est... Je sais pas, j'ai du mal avec ça. Pourquoi je fais peur, quoi? Je me demande ça, pourquoi je fais peur? Est-ce que c'est par ma couleur? Peut-être que je me conduis comme un voyou, dans ma façon de marcher, peut-être. Mais des fois, je me pose la question. Et jusqu'à présent, j'avoue, j'ai pas trouvé de réponse.
Avec l'âge, comme le suspense au fil des pages d'un livre où le poids de l'argent a écrasé celui de la vie, d'un livre où tous les honnêtes gens sont cachés sous leur lit, leurs économies. Ils disent, méfiez-vous surtout des petites bandes et faites confiance à nos grands groupes. Tous les policiers vous défendent en se cachant au bord des routes. Ayez peur de tout sauf de nous et faites attention à vos sous. Y a un étranger derrière vous. Il n'est pas dit qu'on ne sache pas vivre les uns sur les autres, mais c'est plus dur si l'on nous ligue les uns contre les autres. C'est diviser pour mieux régner et protéger pour mieux épier les citoyens satisfaits. Et ferme tout à double tour et prend toujours le même détour pour ne pas avoir à traverser parc mal éclairé. Il est comme ces moustiques le soir qui vont de lumière en lumière en évitant le noir. Il a peur de son voisin et du voisin de ce voisin. Sa peur fait le tour de la terre et revient derrière lui en le faisant sursauter sans même faire de bruit. Je sais tout ce qu'il y a sous mon lit et ce n'est pas un étranger transi qu'en veut à mes économies. Ce n'est pas un jeune mal éduqué ou un fils d'immigré qui pour le plaisir de nuire s'en prend à ma sécurité. Non, sous mon lit ils sont cachés trois types au sourire acéré, un homme d'affaires, un ministère et un petit banquier avisé qui gère le compte et les billets que l'homme d'affaires me pousse à dépenser pendant que le ministère m'attache au lit, au ruban adhésif, estampillé démocratie.
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la peur de la mort. La peur de la mort, la peur de perdre, en fait, pas forcément de la mienne, en fait. Plutôt perdre des êtres chers. Ce qui est attachant, ce que j'aime et ce que je suis en train de faire d'une façon générale, en fait. Je peux avoir peur, il y a un truc qui va bien, ben j'ai peur que ça s'arrête aussi. Donc c'est pas forcément que la mort, c'est l'arrêt de quelque chose qui est bien. Alors ça peut être la vie, mais ça peut être aussi autre chose.
T'as déjà perdu des choses comme ça
que... Ouais, ouais. Et en fait, depuis, je pense que c'est ça. Je me suis rendu compte de la fragilité des choses et de la vie. Alors qu'avant, je pense que j'étais insouciante et que j'avais un peu peur de rien. Et depuis que j'ai perdu quelqu'un, ça a tout chamboulé.
C'est arrivé il y a longtemps, cette ouais. perte.
Donc bon, bah, il y a 8 ans, mais c'est longtemps pour moi. Et, en fait, j'ai perdu un bébé à terme. Donc j'étais dans un euphorisme, c'était mon premier bébé. Donc c'était tout merveilleux. J'étais face à l'avenir, c'était tout beau et tout. Et j'avais pas, enfin, on n'imagine pas de toute façon. Et j'avais jamais été confrontée à la mort en fait. Et donc c'est la mort, mais en plus dans moi. Donc c'était hyper bizarre, quoi, hyper bizarre, anormal, incompréhensif, injuste. Et tout de même culpabilisant quand même, parce que pourquoi j'ai pas réussi à... Surtout que bon, l'explication était... il y avait une explication physique, mais pourquoi moi, voilà, ça arrive une fois tous les, je sais pas, c'est genre 1%, même pas. Et voilà, donc ça m'arrive à moi, et du coup, après, ben, quelque chose qui paraît normal, naturel, ne l'est plus, puisque c'était la chose la plus normale qui soit. Une femme, elle a un bébé, elle accouche, tout se passe bien. Moi, j'ai un bébé jusqu'au dernier jour. Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et le moment d'accoucher, le bébé n'est plus là, enfin, n'est plus en vie. Donc, c'était un gros traumatisme. Et depuis, forcément, je vois la vie différemment. Parce que du coup, quand quelque chose est bien, bah, j'ai toujours peur que ça s'arrête. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose qui vienne faire que non, ça va pas être naturel, ça va pas être bien, ça va pas être complètement normal, quoi. Bon, normalement, on se dit que voilà, ça devrait pas arriver, mais de toute façon, ça aurait pas dû arriver. Donc, on n'arrive plus à penser naturellement l'ordre des choses. Pour moi, il n'y a plus d'ordre des choses. J'ai l'impression de pas être sur les mêmes bases que tout le monde, quoi. J'ai l'impression que, voilà, mon parcours fait que moi, tout va pas de soi. Et que je sais que tout est fragile et que tout peut s'arrêter. Et c'est cette peur que tout s'arrête, surtout pour des événements hyper... Enfin, pour les êtres chers, pour les événements heureux.
Et après, t'as été angoissée quand t'étais enceinte de ton fils.
Ouais. Bon, alors, après, j'ai été super suivie et tout ça, et tout s'est bien passé. Donc, c'est un événement rassurant. Mais qui n'élimine en rien le vécu que j'ai eu et la peur que ça puisse arriver de nouveau, qu'il puisse se passer un truc incroyable, quoi. La peur de la mort, quand même, parce que c'est quand même la mort. Si je le dis pas, mais c'est la mort d'un bébé, mais après, donc c'est une rupture, c'est une perte. J'ai peur parce que je suis pas rassurée, en fait. Mais en même temps, rien... si je raisonne, rien ne peut complètement me rassurer, puisque je sais que la vie, c'est ça, c'est que rien n'est écrit, et que tout peut changer, tout peut basculer. On peut me dire, mais non, là, tout va bien, tout est bien, tu vas bien, ton fils va bien, ouais, mais c'est ce doute qui fait que, voilà, aussi, c'est la vie. C'est l'inconnu, quand même. C'est l'avenir, c'est l'inconnu. La mort, c'est aussi l'inconnu. Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Et depuis... La peur de... Parce que du coup, quand quelque chose est bien, bah, j'ai toujours peur que ça s'arrête.
Je sais pas si dans ma vie, je rencontrerai celui ou celle qui m'expliquera pourquoi, comment certains ou certaines, en l'occurrence, parviennent à trouver les mots pour dire les choses. Les mots juste pour dire les choses, et les choses les plus profondes et les plus graves. Mystère, ça restera sans doute longtemps un mystère, comme la peur en est un au fond, hein ? Au fond, au fond, au fond, la peur. On continue avec cette question avec laquelle Charlotte Perry s'est baladée. Dis-moi ce qui te fait peur.
J'ai peur de la nuit à la campagne. J'ai très peur. Je sais pas, depuis que je suis petite, on m'a mis dans la tête des esprits, vous savez, les gens qui partent, qui décèdent et tout ça, qui reviennent. Je ne crois pas à ces choses-là, mais on m'a tellement mis ça dans la tête depuis toute petite que quand je pars en vacances à la campagne, la nuit, par exemple, si les toilettes sont à l'extérieur, moi, je ne sors pas parce toute seule, parce que j'ai peur. J'ai peur du noir à la campagne. Et c'est surtout, j'ai peur, c'est... je ne suis pas une personne peureuse, j'ai peur de l'imprévu, vous voyez. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai trouvé une dame morte dans un appartement. On frappe à la porte, elle ne répond pas, on téléphone, elle ne répond pas. Donc, comme j'ai les clés, donc je suis rentrée chez elle. Et je l'ai trouvée morte chez elle, donc j'ai eu une peur. Oh là là, j'ai encore aujourd'hui, c'est depuis le mois de novembre, je prends des antidépresseurs parce que ça m'a tellement... J'étais en mauvais état après. Pourtant, je l'ai touchée. Hein. Je l'ai même fermé les yeux parce que j'ai vu qu'elle était morte. Incroyable. Mais sur le moment, vous voyez, vous êtes quelqu'un de peureuse, mais sur le moment... Quand vous trouvez une peur sur le moment comme ça, vous ne pensez pas à la peur. Pourtant, je suis quelqu'un de peureux. Hein. C'est après, vous voyez, après ça, que vous réagissez plus. Parce que vous vous rappelez de tous les petits moments que vous avez passés. Parce que sur le moment, quand vous avez peur de quelque chose, vous êtes un peu vous paniqué et tout ça, mais vous êtes, en même temps, vous luttez pour arranger un peu les choses. Vous avez peur et en même temps, je ne sais pas, une confusion. J'ai tremblé, j'ai frappé dans toutes les portes, jusqu'au quatrième pour trouver de l'aide. Et après, les pompiers sont arrivés, donc j'ai laissé faire, je fais plus rien. Mais j'ai gardé je garde encore aujourd'hui, depuis le mois de novembre, cette image. Comme je vous dis, j'ai peur des esprits, comme on me dit ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, je vois des gens, des têtes, mais j'ai vu un jour, oui, une femme. Ça, je peux le dire vraiment, j'ai vu une femme, un jour j'étais au lit, mais ce n'est pas ici, hein. Elle avait 18-19 ans. J'étais dans mon lit et je me suis couchée vers 11h du soir. J'avais la lumière éteinte, tout ça. Mais dans le noir, hein, j'ai vu une tête d'une femme, un visage d'une femme, à côté de moi. Je n'ai pas vu le corps, rien, mais juste le visage d'une femme qui m'a souri. Elle m'a regardé comme ça. Et ça m'a marqué toujours. Une femme, un beau visage, pas vieille, elle m'a souri comme ça. Et c'est parti. Parce que j'ai fermé les yeux parce que tellement que j'ai eu peur. Quand vous voyez quelque chose comme ça d'anormal, vous fermez les yeux. Donc j'ai allumé la lumière tout de suite. Et j'ai laissé la lumière toute la nuit allumée. Et je me suis caché la tête sous les couvertures toute la nuit. Toute la nuit, avec tellement que j'ai eu peur. Mais j'ai vu, c'est vrai, ce visage. Quelquefois, c'est des gens, avant de mourir, qui vous donnent des signes. Vous savez, on vous donne des signes, donc on voit des gens...
Tire-toi, dégage! Oh, mais merde! Putain de bordel de merde! Dépêche-toi!
J'arrive! J'ai pas attaché mes lacets! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?
Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas, je sais pas moi. Mais regarde, par exemple, moi je suis musulman non pratiquant. Ben, la chose qui nous fait le plus peur dans cette terre en étant musulman, c'est ne pas pratiquer la religion, tu as vu. Parce que c'est une obligation envers la personne qui est musulmane. Ça veut dire que dans les écrits du Coran, on nous oblige à faire la prière. C'est une obligation, quoi. Si tu la fais pas, ça veut dire que je pars en enfer. Enfin, je me prépare à l'enfer, déjà, tu vois. Et après, j'ai peur. Ouais, j'ai peur, c'est vrai. Mais c'est pas vraiment... C'est de la crainte, en fait. De la crainte de ne pas arriver à quelque chose. Mais vraiment peur. Ouais, j'ai peur de Dieu. C'est pas l'étape de mourir qui me fait vraiment peur. C'est Adab al-Qabr. Adab al-Qabr, c'est comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai une obligation de faire la religion pratiquée, quoi. Tu as vu, c'est Fard l'islam, ça s'appelle. J'ai peur des choses comme ça. Sinon, ici dans la vie, j'ai pas peur de grand chose, la vérité. J'ai peur que de Dieu. Tout le reste. Avant, j'avais peur de ne pas trouver un métier. Regarde, j'ai trouvé la bif. Je gagne de l'argent, hein. C'est vrai que je fais la poubelle et tout. Bon, c'est vrai que de temps en temps, on a peur de trouver quelque chose de pas bien dans un pistolet, un bébé mort, tu vois. Une seringue avec le sida. C'est vrai qu'il y a plein de choses aussi que j'ai peur. Mais j'ai pas peur. Comment te dire ça? J'ai plus peur comme avant. Tu sais, après un divorce, après des gros problèmes dans ta vie, tu n'as plus peur, quoi. Tu attends la mort avec impatience, en fait. La mort, ça ne fait même pas peur. J'adorerais mourir. Mais en paix. Sans la souffrance d'après, quoi. Parce qu'après, souffrir, pour entrer au paradis, il faut souffrir. J'ai peur de quoi encore? J'ai peur de rester dans l'attente. De ne jamais trouver un appartement, tu vois. Parce que pour le travail que je fais, il me faut un appartement. J'aime la peur. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois. Pas que j'aime le danger, mais... Je sais qu'il faut que je vis tous les jours, c'est un effort. T'as toujours peur de quelque chose. J'ai peur de quoi? Peur de ne jamais arrêter de fumer le shit. Ouais, ça c'est très important par contre. C'est quelque chose qui me... Je vois que je suis SDF, je m'en sors pas et j'arrive pas à arrêter le shit et ça me fait peur. Mais ne pas pouvoir arrêter la boisson, vivre réellement la vie tous les jours, tu vois. C'est pourquoi je crois qu'on bifurque, qu'on fume du chichon et on boit de l'alcool parce qu'on est un peu faible. J'ai pas peur de mourir, sérieusement. Après tout ce que j'ai vécu dans ma putain de vie, et crois-moi, la mort, ce serait vraiment le paradis pour moi. Mais c'est vrai que j'ai peur de laisser cette atmosphère, les arbres, tu vois, le vent, et voilà quoi. La pluie, les lumières, l'être humain, et ces conneries, les animaux. J'ai peur de tout ça, là, de laisser tout ça, là. J'aimerais bien vivre éternellement. Mais alhamdoulilah, comme on dit. Alhamdoulilah. Le dernier truc que je voulais parler, c'est le dentiste. Ah, putain, ouais, j'ai très peur de ça.
T'as peur de quoi, chez le dentiste?
Eh ben, qu'elle ouvre la bouche, elle me met l'appareil. Le truc normal que les gens, ils font, tu as vu? Tu arrives, tu t'installes chez lui, tu calmes. Moi, quand je m'installe sur le truc, on dirait que la chaise électrique. Sur ma vie. Et ça m'a bousillé ma vie, hein, quelque part. Parce que plus tu as peur de quelque chose, et plus tu si tu ne vas pas l'affronter, eh ben, tu la fais reculer, tu vois. Et plus tu la fais reculer, et plus tu es dans la merde. Ce qui m'est arrivé jusqu'à maintenant, il me reste 13 dents dans la bouche. À 34 ans, 13 dents. Pourtant, j'ai la CMU. Hein. Je suis pas allé au dentiste demain matin, quoi. J'ai peur d'aller chez le dentiste. Il est là le problème. Donc je souffre. C'est vrai. Hein. Elle est jolie, elle, là-bas. Hein. Bonjour. Comment ça va?
Tu peux y aller chez le dentiste, non?
Ben, le problème, il est là. Parce que la dentiste, elle est là. Elle me dit, je peux faire les dents, mais moi, j'ai peur. Donc comment je vais faire pour vaincre cette peur, là, de dentiste? J'arrive pas à comprendre encore. Pourtant, je souffre. Hein. Ces trois derniers jours, j'ai eu vraiment mal. Ma première dent qui a été arrachée sans anesthésie, j'avais 11 ans. Et crois-moi, je me souviens. Et donc, ça a déclenché une peur peut-être chez moi.
Comment ils l'ont arrachée, ta première dent?
Eh bien, ils me l'ont arrachée sans... Elle m'a dit, bouge pas, ça bouge, et boum, elle a tiré, le sang, il est venu. Et crois-moi, j'ai toujours j'ai l'impression d'avoir 11 ans sur le truc de la chaise du dentiste. Il y en avait trois qui me tenaient. Ça va pas encore. Je sais pas, c'est des phénomènes bizarres. Hein. J'ai peur d'aller chez le dentiste. Ça craint. Sur ma vie, ça craint. Dans ma situation, ça craint. J'ai peur.
Alors vous allez me montrer en bas? Et c'est quoi là en bas?
En bas,
il a des canapés, il a un piano.
Et là, il y a la chambre de nos parents.
Et vous, vous faites encore des cauchemars maintenant?
Non.
Non, toi, t'en fais plus? Toi,
quand j'étais bébé, j'en ai fait un. On était dans la rue, là où il descend et ça remonte.
Mais c'était quoi comme cauchemar?
En fait, on était dans la maison quand Avril n'était pas née encore. Et bah... J'étais dans un petit lit à barreaux et mon frère était dans un grand lit.
C'est normal que tu as fait un cauchemar parce que toi, tu étais tout petit que tu n'es pas grand. Donc.
En fait, c'était un loup. Mon cauchemar, c'était un loup et qui était par la fenêtre et ça venait dans ma tête et ça me faisait peur.
Il était où, ce loup?
Il était derrière la fenêtre.
Et qu'est-ce qu'il voulait te faire, ce loup?
Bah, il voulait me faire du mal.
C'était comment ton cauchemar? Tu te rappelles dans l'histoire comment ça se passait?
Non.
Non.
Mais je m'en souviens qu'il y avait trois loups. Une avec une salopette, une avec une chemise et un autre avec un pantalon. Ils étaient petits et ils avaient les yeux un peu orange. Et ils n'arrivaient pas à sortir leurs griffes.
Ah bon? Oui. Tu sais pourquoi ils n'arrivaient pas à sortir leurs griffes?
Non, je m'en souvenais plus. Après, je me suis réveillée.
Et comment c'était?
J'avais la tête qui tourne et ensuite, je suis venue voir mes parents. Et je leur ai dit que j'avais fait un cauchemar.
Moi, quand j'étais petite, je faisais des cauchemars. J'ai fait tout le temps des cauchemars quand j'étais toute petite.
Et tu faisais quoi comme cauchemar? Qu'est-ce qui se passait dans tes cauchemars?
J'étais une grande chambre. J'avais un petit lit. Et en fait, j'étais toute petite. Et en fait, c'était des loups grands, plus grands que moi. Et après, il est venu dans mon lit. Et après, il a acheté du chocolat et des tablettes de gâteaux et à boire.
Il t'a mangé?
Non, c'était du chocolat qu'il a mangé, mais c'était pas moi comme il chocolat. Mais s'il a faim, il a... Je ne vais pas manger les enfants, ils vont manger que du chocolat, après il va cracher. Et après, ils sont allés et mon papa il s'est réveillé. J'ai appelé papa, il dit au secours, papa, au secours, il m'a griffé. Donc il est venu, il lui dit zoup, au revoir, au revoir. Et après il a donné un gros coup de pied sur les fesses. Et dans les couilles.
C'était Je vais vous faire peur, nouvelle version d'un reportage de Charlotte Perry réalisé en septembre 2007. Merci à monsieur et madame Potier, merci à madame Steinbach, merci aussi à Elisabeth, Fernanda, Marius, Momo, Nathan, Avril et Diaba. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique, Michel Bézikian, Pauline Laverdure, réalisation Bertrand Chometon et Franck Adhérer, assistante Marina Touyez, chef du répondeur Grégory Salomonovitch qui attend vos messages au 01 56 40 37 37.
Oh non, j'ai cassé la clé dans la serrure.
Eh ben bravo.
Mais je fais quoi? Mais j'appelle l'assurance.
L'assurance? Mais il est comme nous, l'assureur. Le dimanche soir à 22h, il rentre de week-end et son portable est coupé et il aura ton message demain matin à 9h.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. Avec la nouvelle assurance habitation GMF, pour votre serrure, vous bénéficiez d'un service d'urgence 24h sur 24, 7 jours sur 7, et nous payons la première heure de réparation. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
Raoul, nettoyeur, j'écoute.
Elle est tombée, elle est morte. Aidez-moi.
Calmez-vous. Elle pèse combien?
Oh, je ne sais pas, mais c'est un gros modèle. Elle n'était plus toute jeune, et entre nous, qu'est-ce qu'elle m'énervait. Avec elle, pas moyen de regarder un programme TV en entier.
Je connais ça.
Au moins, je vais pouvoir m'en acheter une nouvelle.
Une nouvelle quoi?
Ben, télé. Et ma télé, alors?
Avec Ecosystem, il y a plus simple pour se débarrasser d'un appareil électrique. Tous les points de collecte et les solutions de recyclage sur ecosystem.fr.
Ecosystem.
Le plus simple, c'est de recycler.
France Inter, partenaire du Festival Rio Loco à Toulouse du 13 au 17 juin. Le Festival international des musiques du monde propose un voyage au rythme de la lusophonie. Du Portugal au Brésil, en passant par le Cap-Vert, près de 200 artistes investissent la ville. Au programme, un hommage à Cesaria Evora, Madre Deus, Marisa et une soirée de clôture dédiée au Brésil. Retrouvez en direct et en public le 14 juin à 21h45 le concert de Lénine présenté par Laurence Pierre. Rio Loco avec France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et l'Opéra Comique présentent Les Pêcheurs de Perles. C'est avec cette œuvre de jeunesse de Georges Bizet, romantique et exotique, que l'Opéra Comique clôture sa saison. Mise en scène par Yoshio Ida et dirigée par Léo Hussein. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Après le journal, Frédéric Lodéon, vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Laetitia Gaillet.
Il fallait s'y attendre. Le tweet de soutien ce matin de Valérie Trierweiler au dissident socialiste Olivier Falorni à La Rochelle suscite la critique à gauche et les sourires à l'UMP. Pour la droite, c'est une aubaine. Donc le vaudeville entre à l'Élysée, s'amuse le député UMP Éric Ciotti. La République exemplaire cède la place à la mauvaise chronique People. Ce matin, la présidence normale est, elle, définitivement morte, dit pour sa part Geoffroy Didier, toujours de l'UMP. Désormais, dit-il, c'est Dallas à l'Élysée. À gauche, c'est la soupe à la grimace. Le tweet a été posté pendant la visite de soutien à Ségolène Royal de Martine Aubry et de Cécile Duflot à La Rochelle. La seule chose qui compte, a déclaré la première secrétaire du PS, c'est le soutien de François Hollande à Ségolène Royal. Toujours à gauche, malgré un accord de désistement conclu lundi soir au niveau départemental, Patrick Braouzec, le député sortant du Front de Gauche dans la deuxième circonscription de Seine-Saint-Denis, a décidé aujourd'hui de se maintenir face au PS Mathieu Hanotin, pourtant arrivé en première position. C'est une décision personnelle, assure le Parti communiste allié du Front de Gauche. Les deux hommes de gauche seront donc opposés dimanche au second tour des législatives. Dans 2 heures d'ailleurs, le dépôt des candidatures sera clos. Du côté de l'UMP, pas question de se retirer pour Étienne Mourut. Le député UMP sortant de la deuxième circonscription du Gard a décidé de se maintenir aujourd'hui au second tour dans la triangulaire qui l'opposera à Gilbert Collard du FN, arrivé en première position, et la socialiste Cathy Guyot arrivée, elle, en deuxième position. L'aide européenne aux banques espagnoles sera neutre pour le déficit public de la France, c'est ce que dit Bercy cet après-midi. Mais le ministère des Finances de Pierre Moscovici met un bémol. Les modalités du déboursement de ce soutien financier pourraient quand même alourdir la dette publique. De son côté, l'Allemande Angela Merkel met des conditions à cette aide. Il faudra réformer le système bancaire espagnol pour lui donner un futur viable. Dans un discours aujourd'hui devant le Conseil économique, social et environnemental, François Hollande affirme que la croissance, qui doit être notre préoccupation et notre engagement, ne naîtra pas de dépenses publiques supplémentaires. Une fois encore, les observateurs de l'ONU ont été empêchés aujourd'hui d'accéder à une zone de conflit. Ça s'est passé à Afée, dans le nord-ouest du pays, actuellement assiégé et pilonné par les forces du régime de Bachar el-Assad. En fait, ce sont des habitants fidèles à Damas qui se sont interposés en s'allongeant sur la route où devaient passer les observateurs de l'ONU. Le gouvernement des Malouines annonce aujourd'hui à Londres qu'il va organiser un référendum sur le statut politique de ces îles, et ce, au début de l'année prochaine. David Cameron, le Premier ministre britannique, a immédiatement réagi. Cela fait 30 ans que les habitants ont clairement, dit-il, dit qu'ils voulaient rester britanniques. Nous les respecterons. Les Malouines ont été l'objet d'un conflit en 82 entre l'Argentine et la Grande-Bretagne, située au large de la Patagonie. Ces îles comptent 3000 habitants. Elles sont sous contrôle de Londres, mais depuis 1833, les Argentins continuent de revendiquer leur contrôle. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public dans l'Hérault aujourd'hui mardi à Saint-Guilhem-le-Désert à 19h au Théâtre de Verdure et demain mercredi dans l'Aveyron à Saint-Affrique à 19h à la Salle des Fêtes. À très bientôt.
Tous les jours,
à partir de 11h.
Non, non, je suis ennuyé parce que j'ai envie de vous aimer.
Les Affranchis.
Vous n'avez rien bu là.
Isabelle Giordano.
Rien fumé ce matin.
Demain, retrouvez Isabelle Giordano et toute l'équipe des Affranchis avec leurs invités, Catherine Jacob et François Forestier, en direct du studio 106. Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la maison de Radio France. Ou réservez vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page des Affranchis. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Et bonjour Laetitia.
Ça vous
poursuit.
Hein. Ouais, ça me poursuit.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, à 16h30, j'aurai le plaisir de recevoir Stéphanie Doustrac, magnifique mezzo-soprano. Ça a été une très grande Carmen il y a peu à Lille avec Jean-Claude Casadesu, il y a 2 ans déjà, ça passe le temps. Et puis c'est une cantatrice qui sait tout faire, la musique baroque a été son premier terrain. Et puis après, elle a élargi tout son répertoire et on aura le grand bonheur d'avoir cette jeune femme très vivante, très dynamique, comme on l'a rencontrée à Lille justement et en d'autres endroits, très bien famée. Mais pour commencer justement, voici de Franz Joseph Haydn, une histoire très ordinaire, interprétée par Stéphanie Doustrac. Ça s'appelle une histoire très ordinaire parce que ça raconte quelque chose de banal peut-être. C'est Philinte, un jour devant la porte de Babette, qui frappe et il n'y a personne. Alors elle dit non, je ne veux pas entrer, vous me faites peur, j'ai trop peur. Non, mais pourquoi? Et puis plein de chagrin, il s'en allait déjà lorsqu'il entend qu'on tire le verrou. Une voix lui murmure, un instant et c'est tout, hein, tu ne restes pas trop longtemps. Et après ça, tu t'en retournes. Mais de curiosité, les voisins se consument et du visiteur, il guette le départ. Il partit enfin et pas avant l'aurore. Ah, comme ils ont ri.
Wie lachten sie?
Une histoire très ordinaire, et oui, on n'empêche pas l'amour, bien sûr. Franz Joseph Haydn, interprété par Stéphanie Doustrac, qui sera avec nous bientôt, vers 16h30. Et là, on a entendu au pianoforte Aline Silbereich. Si vous voulez écouter Stéphanie Doustrac au Festival d'Auvers-sur-Oise, ce sera bientôt, c'est jeudi qui vient, le 14, à l'église Notre-Dame d'Auvers-sur-Oise, ce si beau festival dont nous sommes partenaires depuis longtemps, mais nous sommes fidèles, bien sûr, à France Inter, l'endroit où est venu mourir Vincent Van Gogh. Donc elle chantera, mais alors plutôt dans un registre dramatique, puisque le titre de son dernier disque, Ferveur et Extase, dit bien ce qui sera chanté là. Et elle sera avec Héloïse Gaillard, qui va diriger l'ensemble Amaryllis. Donc si vous voulez y aller jeudi, qui vient dans deux jours, s'il vous plaît, appelez le numéro d'Auvers-sur-Oise, pas celui de France Inter, je dis tout de suite, 01 30 36 70 82, 01 30 36 70 82 de la part de France Inter. Il y aura aussi le lendemain